Radio Uze, la radio qui jamais ne s'use.
Radio Uze.
Radio Uze en direct pour une émission en public. En public ici sur le site de l'Esteillada de la Sarthe, au pied de la collégiale du Zest. Et aujourd'hui, on accueille Michel Leray qui parle tranquillement. Il n'a pas compris que ça allait démarrer, mais c'est pas grave, il va s'en rendre compte assez rapidement. Donc on est en public, c'est ça quand même l'intérêt, c'est d'être en public. Donc il y a des gens qui vont parler dans les micros et les micros sont ouverts pour tous. Venez nous rejoindre ici auprès de la caravane d'ARL qui nous sert de studio. On est devant, vous nous trouverez sans problème. Alors autour de la table aujourd'hui pour parler du barrage de l'Atrave aujourd'hui, Marc-Alexis Morel du site d'information locale à Diou, Michel Leray du parti de gauche, Philippe Gruca qui est philosophe enseignant à Bordeaux 3 à l'université et qui est directeur de rédaction, un des directeurs de rédaction de la revue Entropia. Alors aujourd'hui, tout à l'heure, il y a quelques heures, à 14h30, sous la tonnelle du Café des Sports, à l'initiative du Front de Gauche et du Parti de Gauche, donc il y a eu une assemblée citoyenne sur la question du barrage de l'Atrave. Alors peut-être on va faire déjà un petit compte-rendu de ce qui s'est dit là-bas. Peut-être que Michel, si tu veux bien, ou Marc-Alexis, si vous pouvez un peu résumer ce qui s'est dit en deux mots, qui étaient les invités et pourquoi avoir rassemblé ces citoyens et ces experts, enfin, ou ces techniciens qui avaient une connaissance, disons, plus technique de la question du barrage. Michel.
Oui, nous, Michel Leray du Parti de Gauche. Donc nous, on a programmé, on a fait cette assemblée citoyenne pour, dans le cadre actuel des problèmes d'énergie au niveau local et mondial, pour essayer de réhabiliter et de reprendre le barrage de l'Atrave qui peut alimenter, c'est une source d'énergie locale qui va complètement dans le développement durable, et en plus une énergie propre, puisque c'est de l'hydroélectricité. Aujourd'hui, il y avait donc l'ancien directeur de l'agence locale de l'énergie Aquitaine, et il y avait le porteur de projet Enercop Aquitaine, qui nous ont, dit leurs sentiments sur la reprise possible du barrage, qui nous ont fourni des données techniques sur la capacité du barrage à produire de l'électricité. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est même si ce n'est pas des centaines de milliers de publics, mais il y avait 35 personnes et dont au moins 12 usestois et 3 personnes de près chaque. Parce que nous, ce qu'on souhaiterait, c'est reprendre ce barrage, le réhabiliter, le reprendre pour qu'il fournisse de l'électricité, mais aussi avec une démarche écologique, en faisant notamment une passe à poisson pour essayer de faire revenir les saumons. Nous, ce qui nous intéresse, et Enercop aussi d'ailleurs, c'est de faire une reprise éco-citoyenne, c'est-à-dire que les citoyennes du coin ou même des Parisiens qui viennent au festival investissent pour réhabiliter ce barrage pour qu'il reproduise de l'électricité. En sachant qu'il y a des projets en France et Enercop, ils sont en train de faire un projet d'éolienne dans le Morbihan où ils ont quand même récolté 12 millions d'euros rien que par les citoyens pour monter un projet de 9 éoliennes qui va alimenter 5000 habitants. Nous, ici, on pense que c'est peut-être 500 habitants ou 500 foyers, mais vu l'état actuel de la planète, vu la démarche écologique quand même, même si elle n'est pas comme il faudrait de la part de notre gouvernement actuel, mais c'est des projets locaux qui sont utiles à la conservation de la planète et au développement durable.
Alors, Marc-Alexis Morel d'Adiou, est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'historique de la mobilisation? Déjà, bon, ce barrage a fermé il y a quelques années. Il y a eu une mobilisation citoyenne suite à une décision du préfet, de la préfecture, de le démolir, c'est ça?
Voilà. Ça s'est passé assez naturellement sur un forum sur Internet où les acteurs locaux, mais aussi les citoyens discutent, communiquent. Et il y a eu s'est enclenché un débat très, très nourri, très intéressant, très polémique. Plus d'une centaine de messages ont été échangés sur ce forum au sujet du barrage de l'Atrave, avec des soucis, des gens qui voulaient, par exemple, un pêcheur qui préférait que le barrage soit détruit, un promeneur qui préférait aussi que le barrage ne soit pas privatisé pour pouvoir continuer à se promener sur les berges du Ciron, un énergéticien qui préférait réhabiliter les turbines de façon à produire de l'énergie, enfin plein d'avis très différents, où quelques-uns ont brillé par leur absence quand même, les élus, Après, ça c'est peut-être une coïncidence, je ne sais pas, mais les élus se sont emparés du sujet parce qu'on était en période électorale, je crois que c'était une députation à ce moment-là. Et donc le sujet, ils l'ont saisi le sujet parce qu'ils ont vu que quand même sur cette vitrine, ils ont vu que c'était un sujet porteur. Et puis bon, ils se sont sentis concernés peut-être tout simplement. Et personnellement, je veux dire, pas seulement en tant qu'élu représentant des électeurs. Donc ce sujet-là est un bel exemple de ce que l'on peut faire en politique locale sur le terrain. Et le local est un très bel exemple de ce qu'on peut faire en politique, plus généralement aussi. Le local reste compréhensible. Donc voilà ce qui s'est passé sur Adiou, c'est sur adiou.fr, c'est ça, un débat très nourri, très, très intéressant, mais qui n'a pas été pris en compte, je pense, suffisamment par les experts qui ont considéré que c'était pas un travail, c'était pas des échanges d'experts, justement, ni peut-être par les élus qui craignent un peu ces leviers politiques de contre-pouvoir, quoi, à tort.
Donc là, c'est un travers assez classique de l'expertise, hein, qui fait fi des choix démocratiques et qui fait fi d'un avis général ou d'un avis citoyen. Donc pour justement imposer des choix techniques, technologiques qui sont, disons, souvent hors sol ou en tout cas hors décision transversale, quoi. Peut-être que Philippe Gruca, tu peux, en tant que philosophe et travaillant sur le thème de la décroissance, on pourrait évoquer un peu la question de l'expertise.
Oui, mais là, toute la question, moi, ce que j'ai assisté tout à l'heure à ce débat que j'ai trouvé très, très intéressant. J'ai trouvé intéressant que les gens essayent de s'approprier la question de l'énergie. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que la moyenne d'âge était plutôt au-dessus de 50 ans. Que faire ? Mais oui, mais c'est l'une des questions essentielles.
Il n'y a que des vieux qui habitent
du geste. Non, c'est faux. Non, c'est pas qu'une question de vieux. Et c'est pas forcément les vieux qui consomment le plus d'énergie.
Ce sont eux qui virent les jeunes du débat politique.
Je suis pas sûr, je sais pas. Mais le point de vue du philosophe, ce serait que, disons, l'énergie, comme les techniques, comme tout ce dont on dépend, est de plus en plus délocalisé. C'est-à-dire, c'est hors de la vue. Voilà. Là, il y a des gens qui essayent de se réapproprier des choses. Mais le reproche que j'aurais à faire, ça peut être aussi la discussion, c'est que j'ai entendu d'un côté des gens parler de kilowatts, ce monsieur qui était maire et expert, enfin, il avait différentes casquettes, énergéticien. Et puis, de l'autre côté, il y avait des questions sur le prix. Bon, bah, combien ça va nous coûter par rapport à EDF? Combien ça nous coûterait? Et j'ai pas entendu ni vu de photos sur où se trouve ce barrage hydroélectrique, où est-ce qu'il est. Et disons que d'un point de vue d'une personne ordinaire, se trouver raccordé à EDF ou se trouver raccordé à un barrage hydroélectrique, ça peut n'avoir aucun changement en dehors du prix, effectivement, ou du coût écologique, comme on dit. C'est-à-dire que est-ce que ça permet vraiment de se réapproprier l'énergie, que de se trouver raccordé à un barrage, ou est-ce que ce barrage se trouve être sur des lieux de vie? Est-ce que ce barrage se trouve être sur des lieux où on passe, où les gens ordinaires se trouvent, qui peuvent voir? Parce que si c'est hors de la vue, c'est hors de la conscience. C'est souvent comme ça. Voilà. Est-ce que c'est une vraie réappropriation? Est-ce qu'il y a une vraie réappropriation possible?
Alors si le barrage de la Traffe fait quand même partie ici, hein, la réalité quotidienne des gens qui traversent, qui le voient et qui font du kayak. Oui,
c'est ça. Et puis c'est à la portée de n'importe quel Européen qui n'est pas illettré de comprendre que quand il prend un abonnement à l'électricité chez une coopérative comme Enercoop, évidemment c'est le réseau EDF, mais il favorise la production d'énergie alternative. Qui est reversé dans le réseau, donc il peut comprendre ça. Même si l'écho n'est pas direct, on le comprend tous très bien, pourvu qu'on le veuille. Donc je pense que c'est pas tellement la question de la géographie. Là, on n'est pas hors sol. Tu vois, tout le monde connaît la Trave, tout le monde le connaît dans le coin. Tout le monde ne s'intéresse pas forcément à la production d'énergie, par contre. Ça.
Non, et puis quand tu disais que on le voyait pas, il était pas là, mais tous les gens qui habitent dans le coin savent où il est. C'est-à-dire quand tu prends la route du Zest vers Préchac ou vers la Haute-Lande, vers Luxeuil par exemple, tu passes devant le barrage de la Trave. C'est-à-dire il est au pont qu'il y a entre Uzest et Préchac, un pont qui passe sur le Siron, et à gauche, il y a le barrage.
Donc, c'est important.
Alors tu n'étais peut-être pas là au début, parce qu'au début, j'ai bien dit que le barrage de la Trave était sur mitoyen sur la commune d'Uzès et de Préchac, qui barrait le Siron, et que la centrale électrique est sur la commune d'Uzès, parce que la commune d'Uzès, elle part d'ici, elle va jusqu'au pont sur le Siron.
Ah non, mais qu'il soit sur la commune,
tout le monde ne sait pas.
Non, mais il peut être dans la commune, mais caché. Moi, ce qui m'importe là, c'est la question de la visibilité des techniques. Ouais. C'est-à-dire que. Est-ce que c'est visible? On parlait aussi tout à l'heure des éoliennes. Il y a une dame qui trouvait ça moche. Je trouve ça moche aussi. Par contre, je trouve que si on bénéficie d'une énergie de quelle qu'elle soit, c'est important qu'on puisse voir. C'est comme la question de l'enterrement des lignes à haute tension. Effectivement, c'est très laid, mais je trouve que c'est important de voir. Ça participe du même mouvement que, par exemple, la voiture électrique. C'est-à-dire que, effectivement, on dit que c'est plus écolo, etc. Alors pourquoi on dit ça? Parce que dans ce qu'on constate, ça pollue moins localement. Par contre, ça pollue. Plus, c'est toujours délocalisé. Donc on délocalise toujours les nuisances.
On masque, et quoi, plutôt.
On masque, exactement. On se peaufine un beau spectacle dans lequel on bouge. Par contre, la visibilité des techniques, moi, c'est vraiment une question que...
Justement, nous, on ne souhaite pas que ça soit plus loin, la production. On souhaite qu'elle soit là, hein, parce que ça induit quand même, ça induit des économies de coûts, hein, le transport d'électricité, en sachant que quand on transporte de l'électricité, on perd entre 10 et 15% d'électricité, donc ça entraîne des coûts. Et après, je veux dire, les gens qui sont d'ici, ils vont savoir pourquoi ils vont le savoir, parce qu'on va leur demander de participer au projet, en tant que citoyens. C'est-à-dire, nous notre but au Parti de Gauche, c'est que les citoyens se réapproprient la politique.
Il serait bien que l'impulsion vienne d'eux. Il serait bien que l'impulsion vienne d'eux.
Non, mais je suis d'accord avec toi, sauf
que... Mais quand elle vient d'eux, elle n'est pas entendue.
Et dans l'histoire, l'impulsion, c'est rare quand elle vient vraiment d'en bas.
Et pourquoi elle n'est pas entendue quand elle vient d'eux?
Parce qu'elle vient contrer d'autres choix politiques ou parce que, par exemple, moi, c'est une chose qui m'a assez frappé en zone rurale, parce que je ne suis pas d'ici. Alors déjà, c'est peut-être déjà un handicap de ne pas être d'ici. Mais en zone rurale, il y a quand même encore des comportements féodaux qui sont fabuleux et qui ne sont pas seulement dus à celui d'en haut qui s'adresse aux manants. C'est aussi une obéissance volontaire, quelque part. Et ça, c'est dans le local, c'est quand même très... très vivace, je trouve, toujours.
Et on peut dire que le barrage de la Trave est féodal, parce qu'il date du Moyen-Âge. C'est une boutade.
J'ai compris. Mais tout à l'heure, dans le débat aussi, il y a ce monsieur qui était énergéticien qui disait que l'électricité était une énergie noble. Moi, effectivement, toi, tu as dit que c'est une énergie qu'on peut qualifier d'ignoble. Alors, bon, je ne sais pas. Oui, mais en tous les cas, ce que tu dis par rapport aux énergies féodales, c'est une boutade, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que cette énergie de l'eau, on peut la transformer en mouvement. Et peut-être que c'est pas si obsolète que ça, et peut-être que c'est pas si ridicule que ça de transformer de l'énergie en mouvement plutôt que de chercher toujours à la transformer en électricité. Et aujourd'hui, tous nos appareils sont croyants. Ils sont croyants dans cette religion de l'énergie. Ils sont tous tournés vers leur mec énergétique, électrique. Et alors que beaucoup d'instruments qu'on utilise pourraient fonctionner à des énergies très diverses et pas seulement l'électricité. Donc je pense qu'il faut repenser cette question de l'électricité comme énergie centrale et de facilité.
C'est un peu la fée électricité, c'est un peu l'énergie invisible et qui du coup ne peut nous paraître propre. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que quelque chose qui n'est pas visible, on oublie son existence. Ouais, c'est vachement intéressant ce truc-là, parce que la question, le mouvement mécanique, lui, on le voit, il faut le transporter, on voit le transport même de ce mouvement. Et la chaîne du vélo qui va du pédalier à la roue, par exemple, ça, c'est, on le comprend très bien. Par contre, le moteur électrique, effectivement, c'est une énergie discrète. Et du coup, on oublie l'impact qu'elle pourrait avoir. Quoi. C'est une belle idée. Ça.
Et est-ce qu'il n'y a pas des choses qui pourraient être faites sans parti, sans État, sans énergéticien? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des gens, par exemple, qui font du mini-éolien ici? Ça, c'est une énergie. Donc, c'est l'énergie du vent. Ça n'a rien à voir avec ces trucs gigantesques, que ce soit de EDF, Enercop, ou ces géants qu'on voit et sur lesquels on n'a aucune prise. Par contre, le mini-éolien, moi, c'est une énergie qui m'intéresse dans la mesure où on demande à personne.
Ça pose un problème déjà. Ça, c'est une question très technique que tu poses. Mm-hmm. Et techniquement, je suis pas très compétent, mais je me suis un peu renseigné. Et le petit éolien, forcément, tu le mets assez bas. Et quand tu es trop bas, tu ne peux pas compter sur une énergie assez constante, mm-hmm. ou saisonnière ou régulière. Donc, tu dépends beaucoup du feuillage d'un arbre, de turbulence, etc. Donc, il faut essayer de monter à plus de 14 mètres ou 12 mètres, je ne sais plus. Après, il y a des législations. Et donc c'est un peu compliqué. C'est peut-être pour ça qu'ils font plutôt de grands mâts. Mais après, bon, il y a d'autres façons de produire l'énergie. On avait parlé d'hydroliennes aussi à une époque. Je ne sais pas pourquoi on n'en parle plus. Mais ce sont des questions techniques.
Et qui touchent à l'idée de qu'est-ce que serait une décentralisation réelle ou radicale.
Ouais. Alors l'intérêt d'une décentralisation, ce serait de se rendre compte de nos besoins énergétiques. Et là, quand on parlait de... Tu disais par exemple une éolienne, c'est pas beau. Un autre disait une ligne haute tension, c'est pas beau. On devrait peut-être essayer de voir est-ce que nos besoins, notre grand besoin en énergie, est-ce que c'est pas quelque chose d'assez moche aussi finalement. On peut avoir une espèce de nausée comme quand on a trop mangé, vous savez, à trop bouffer d'énergie. On peut se sentir un peu trop repu, et ça c'est peut-être assez moche aussi. Il y a peut-être une espèce de bien-être à être plus sobre.
Il n'y a pas que des projets gigantesques. Il y a un exemple, pas loin, après chaque, justement, l'autre côté du Ciron, où il y a une association écologique, la Belle Verte. Ils sont en train de monter un projet, bon, avec Enercop, mais Enercop ne fait pas que des gros projets d'éoliennes à 250 mètres. Ils sont en train de monter un projet à construire une éolienne en bois. Et Enercop va les aider, va participer à ce projet. Et là, ils vont partir à l'automne en formation, justement, pour affiner la construction de l'éolienne, etc. Donc, il y a aussi des micro-projets, on pourrait dire, des micros, qui sont en train de se réaliser, et de plus en plus. Et je trouve que c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut aller. Il ne faut pas faire des champs d'éoliennes, forcément, pour encore envoyer l'électricité ailleurs pour faire marcher les usines. Ce n'est pas ça, la question. La question, c'est que les gens se réapproprient leurs besoins. Mais aussi, il faut les aider à évaluer leurs besoins. Parce qu'aujourd'hui, les gens, depuis les années 70, qu'est-ce qu'on a fait en France ? On a produit, on a fait une politique de l'offre. C'est-à-dire, on a fait l'électricité pour obliger les gens à consommer. On a obligé les gens à consommer, le chauffage électrique, etc. Tous les appareils qu'on a achetés.
On les a invités à consommer.
Il y a des démarches. Non, on les a obligés, pratiquement. La France, c'est le pays du monde où il y a le plus de chauffage électrique.
Hein, ouais, c'est ce qu'on
il y a
disait,
plein de pays qui sont à notre niveau de développement, hein, des pays de l'Occident, comme on dit, qui n'ont pas ce taux de chauffage électrique. Donc il faut se réapproprier ça, il faut refaire, nous on dit, il faut faire de l'éducation populaire. C'est pas péjoratif, c'est-à-dire il faut réapprendre, nous, moi, toi, les autres, hein, il faut se réapprendre entre nous, avec nous, à se réapproprier les choses et à réinventer des choses. On ne veut pas dire, moi j'ai la parole, j'ai la vérité suprême et je veux que les gens fassent ça. C'est qu'il faut redéfinir les besoins des gens, les aider à le faire. Par exemple, Enercop, je ne fais pas de la pub pour Enercop, mais moi je trouve ça intéressant. Les gens qui sont abonnés à Enercop, s'ils veulent, ils leur font une formation pour économiser l'énergie chez eux, pour isoler leur habitation, etc. Voilà. C'est nous, c'est dans ces démarches-là qu'on souhaite aller.
Et là, on a une période assez cruciale et charnière, c'est l'ouverture du marché, quoi, de l'électricité, de l'énergie. Donc, on a des avidités là qui se réveillent et qui entourent le gâteau de l'énergie électrique et autres. Mais c'est pour ça. Donc, les projets Enercop, c'est justement anticiper, enfin, parce qu'ils ont démarré déjà il y a 10 ans, pour anticiper l'ouverture du marché et se positionner comme un acteur de la distribution de l'énergie qui pourrait concurrencer les avidités des fournisseurs qui se sont présentés. Il y a déjà des fournisseurs d'électricité privée, européens, internationaux, qui se partagent ou qui veulent se partager le marché. Donc on est vraiment à un moment crucial où effectivement tous ces projets d'éolien, de proximité, etc. étaient freinés par le monopole d'État qui obligeait à revendre enfin l'électricité, ou en tout cas à se brancher sur le réseau centralisé, qui était aussi néfaste parce que du coup c'était la politique des centrales nucléaires, etc., des gros réseaux, des lignes haute tension. Et là on est à un basculement, mais un basculement qui peut virer au pire, au meilleur ou au pire, quoi. Donc c'est là qu'il faut agir. Et c'est là que les réunions citoyennes, bon, comme aujourd'hui, ou les prises de position citoyennes, doivent faire en sorte que c'est maintenant qu'on peut agir, quoi. Parce qu'une fois, effectivement, ça a été évoqué que le barrage de la Trave sera racheté par un fonds de pension américain pour faire du greenwashing et du développement durable, vert, etc. Ce sera fini, quoi. Ce sera entre les mains, bon, d'une production factice qui permettra juste de rentrer une défiscalisation ou je ne sais quoi dans leur compte de résultats, quoi. Donc là, il y a une mobilisation qui est importante, qui s'est faite quand même. Donc c'est quand même assez, je dirais, encourageant de voir que tout d'un coup, il se passe une décision comme assez aberrante. On rase, on s'en fout. Comme ça, les truites pourront remonter le cours. Bon, c'est pourquoi pas, mais c'est quand même un peu léger comme niveau de réflexion sur un écosystème qui est établi depuis des centaines d'années. Hein, c'est plus de 100 ans, le barrage, hein, je crois. Tout d'un coup, bon, qu'est-ce qu'on privilégie, quoi ? On privilégie les truites et les poissons ou alors... Un pays, un besoin d'électricité, on a beau dire, enfin, ou d'énergie, on a beau dire que bon, l'électricité, c'est pas noble, etc. Mais bon, on peut difficilement aujourd'hui se passer d'électricité à un niveau local ou national ou mondial. Donc, mais de quelle électricité on veut, quoi, c'est ça. Si on en a besoin encore, alors effectivement, décroître en consommation d'énergie, c'est vital. Mais comment on se réapproprie justement la production?
On pourrait parler, quand on parle d'énergie, on devrait parler d'énergie citoyenne aussi. C'est une énergie qui est très faible et qu'il faudrait savoir cultiver. Et quand on voit que tout le monde est un peu au four et au moulin, un peu en phase de survie ou de confort, bon, ça change. Parfois on est au chômage, parfois on travaille, parfois on est dans le besoin, parfois pas. Et donc on ne peut pas forcément tout le temps se mobiliser. Et quand on voit que point une énergie citoyenne sur un thème, même aussi local, aussi petit que la Trave, et qui va produire peu, on devrait respecter cette énergie-là et la cultiver, même plutôt que de regarder ailleurs. Et la laisser fondre et se décourager. C'est un peu dommage qu'on ne fasse pas bien attention à cette énergie-là aussi, qui est, je pense, très importante.
Mais on y fait attention, justement, on est là.
Nous, oui.
Mais c'est à nous de faire. Qui va faire ? Le préfet, il voulait le raser. Donc...
Mais regardez, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu ce débat qui a duré pendant 2 ou 3 mois, à partir du moment où on a appris que la Trave serait démolie. Donc il y a eu débat, c'était très intéressant. Et puis après, suspension du débat, parce que juste en veille d'élection, etc., et on savait que Savary s'était mobilisé sur le truc. Donc tout le monde a attendu la décision. Et puis tout d'un coup, on a appris le barrage ne sera pas démoli. Mais on ne sait pas comment est venue cette décision. On ne sait pas. Qui nous a dit, qui a décidé de ne plus détruire ? On ne sait pas. Donc voilà, on range la mobilisation citoyenne, on la met de côté et puis après on voit Michel qui a du mal à instaurer un débat, à continuer le débat là-dessus. Parce que on a l'impression que la décision vient d'en haut comme si c'était un truc transcendant, mais la démocratie c'est pas transcendant. Hein.
C'est un rapport de force aussi, tout d'un coup.
La décision de plus le démolir, la première décision de le démolir c'était le préfet, parce que la filiale de l'EF a arrêté, la concession s'est arrêtée. En 2010, le préfet, lui, sur l'avis de lobby plus ou moins
écologiste, ouais.
Oui, voilà. Bon, ils ont décidé que le Ciron, ils voulaient ils remettent que des poissons, des tortues, etc. Bon, c'est une optique. Après, il y a une mobilisation citoyenne un peu que nous, on a lancée, qu'on a essayé de faire mûrir. Et cette mobilisation un peu citoyenne, c'était pas grand-chose, hein, elle a fait intervenir un candidat aux élections législatives. Hein, alors que moi, je m'étais adressé à tous les candidats de la circonscription aux élections législatives. Il n'y en a qu'un qui a réagi. C'est le député candidat à l'époque, Savary, qui a été élu du Parti socialiste. Les autres candidats des autres partis sur la circonscription, ils n'ont pas réagi. Bon, ça s'est passé comme ça. Lui a rencontré le préfet, ils ont bataillé, ils sont venus ici, ils ont fait des réunions. Le préfet a changé d'avis, on ne le démolit plus. Mais c'est parti quand même un peu d'une mobilisation. Parce que moi, j'ai envoyé les premiers mails, les premières interventions dans les médias 10 jours avant que Savary... C'est un peu ça qui a déclenché le fait qu'ils viennent ici. Parce qu'ils ont senti qu'il y avait une mobilisation un peu des citoyens sur ce sujet, quoi. Après, ce que moi, je crois qui est intéressant, c'est que le projet, il part d'un certain temps. Mais ce qui se passe aujourd'hui, je trouve que ça intéressant. Et puis, je pense que... Il y a des gens qui sont prêts à s'engager, des usestois notamment, surtout, hein, des personnes âgées, oui, c'est vrai, mais qui ont dit, nous, le Ciron, c'est notre vie, parce qu'ils sont nés ici, ils ont vécu au bord, ils se sont baignés dedans, ils ont pêché dedans, ils ont vu le barrage fonctionner, leur fournir de l'électricité. Et je pense qu'on va créer, là, maintenant, dans l'état actuel des choses, parce qu'il faut s'attendre que le projet de reprise, il ne se fera pas avant 2, 3, 4, 5 ans. On va essayer de créer une association de défense et de réhabilitation du barrage, en essayant d'impliquer le plus de citoyens possible du canton. Voilà.
J'ai une remarque, enfin une chose à dire et une question. La question, c'est, est-ce que, quand vous êtes intéressé à ce barrage, est-ce que vous avez entendu parler ou fait des recherches sur d'autres initiatives du même type ? Est-ce que...
Oui, il y a eu l'exemple du barrage de Noyant, mais là, c'est un privé qui a repris le barrage pour refaire l'électricité. Et comme a dit Marc, c'est vrai qu'il a tout clôturé autour du moulin, parce que c'est un petit moulin. C'est pas le barrage comme là, c'est un petit moulin. Ils font de l'électricité, mais il a tout fermé. C'est une société privée, je sais pas sous quel statut. C'est-à-dire, les gens allaient se promener le dimanche ou comme ça, au bord du moulin, on ne peut plus y aller. Bon, après, on n'a pas cherché trop de reprise.
Si, en fait, c'est un problème au niveau national, avec toutes les rivières et tous les moulins, avec des décisions de diminuer de moitié les barrages en produisant autant et en permettant quand même un peu mieux la passe des poissons. Et sur le forum, justement, des gens ont posté des liens vers des tas de documents très, très intéressants et très formateurs sur ces questions-là, sur les choix généraux, nationaux. Et qui sont appliqués ici à la Trave, par exemple.
Il y a aussi des décisions européennes de remettre en l'état naturel certains cours d'eau. Mais c'est pas qu'au niveau national, c'est des décisions européennes, des directives européennes.
Il y a une autre chose, moi, je pense dont il faudrait parler peut-être rapidement, c'est qu'en introduisant le débat tout à l'heure, les techniciens, donc, c'est-à-dire Michel Ferrit, c'est ça, et puis Johan, je ne sais plus comment, d'Enercop, ont tous les deux dit qu'ils avaient travaillé avec des données pas forcément justes. Et ça, c'est quand même un problème. Si des experts mandatés pour faire une expertise n'ont pas accès...
Ils ne sont pas mandatés.
Ils
ne
sont pas mandatés ?
Ben non.
D'accord.
Non, ils sont mandatés par personne. D'accord. Ils sont venus avec nous, pour nous, un peu, hein, pour nous aider. Mais c'est parce que les données techniques, personne ne veut les donner aussi.
Voilà,
ils ne veulent pas leur donner, même à eux. Quoi,
c'est pour ça que je posais cette question.
Et eux n'avaient pas accès au site.
Et Johan Didier a voulu visiter, Johan Didier d'Enercop, il est allé voir Mme Bopp, la maire du Zest, et Mme Barrault, la maire de Préchac. Il leur a demandé s'ils pouvaient visiter le barrage. Toutes les deux l'ont renvoyé vers l'Adréal, la direction régionale des eaux et des fleuves, je ne sais pas. Voilà. Donc, il n'a pas pu visiter le barrage. On en est là, quoi.
D'accord.
Parce que
légalement, ces deux maires auraient pu donner...
L'Adréal et le préfet disent que, vu que la concession n'est pas terminée, parce qu'il faut qu'ils finissent la concession, et à ce moment-là, le barrage, il est reversé au domaine, les domaines, hein, ceux qui... achètent les biens de l'État et qui revendent les biens de l'État. Et c'est à partir de ce moment où le barrage, quand il sera dans les domaines, il fera un appel d'offres pour la reprise.
Ce que je voulais dire aussi par rapport à ce que tu disais, c'est-à-dire par rapport à cette idéologie de l'illimitation dans laquelle on est, c'est-à-dire on peut brancher tout ce qu'on veut 24 heures sur 24, ça coule à flot, l'énergie coule à flot. Mais là, c'est intéressant justement qu'un monsieur nous dise, voilà, vous êtes branché à ça, il y a une limite. Vous pouvez utiliser tant par famille ou par personne, etc. Je trouve que c'est très, très intéressant, justement. Dans l'imaginaire, ça modifie beaucoup de choses.
Oui, ça me fait penser à Soleil Vert, où on voit, pour que l'ampoule brille, on voit Charlton Heston pédaler sur le vélo à côté.
Alors, moi, Marc-Alexis, je voudrais revenir sur... Tu avais l'air de déplorer que la mobilisation citoyenne se soit éteinte, hein, qu'il y a eu sur le site, sur le site Adieu. Alors, comment articuler une mobilisation citoyenne sur Internet ? Alors, là, c'est un parti politique, hein, qui a pris le relais. Alors, comment ça pourrait être différent ? Est-ce que ce serait un collectif qui aurait dû se créer, des indignés de l'énergie qui auraient fait un sitting sur le barrage de la Trave, sur le pont, en tout cas. Tu vois, donc, cette articulation, elle n'a pas eu lieu. Effectivement, il y a eu des commentaires, certains anonymes, d'autres pas. Mais comment tout ça fait que ça prend, quoi ? Et qu'on se retrouve... tu vois, sans que ce soit un parti, parce que tu avais l'air de le déployer, que ce soit, tu vois, que ce soit un parti politique qui prenne en charge ça, ou qui se l'accapare, qui se l'approprie.
Je ne le déplore pas du tout. Je suis très content qu'au moins un parti se soit intéressé à la question. Et je ne fais pas partie de ce parti, mais il est souvent présent là où d'autres ne sont pas là. Et c'est très bien. Mais il faudrait simplement déjà qu'on considère que la participation des gens a une valeur, qu'on arrête de demander aux citoyens de simplement approuver des choix politiques, mais qu'on lui demande son avis, qu'on l'écoute et qu'on le valorise, ce choix aussi. Parce que le citoyen, il se décourage quand il sent qu'il parle dans le vide.
Après, il y a les enquêtes d'utilité publique, mais qui sont complètement pipées dès le départ.
Téléphonées, pipées.
Voilà, donc, voilà, effectivement, ces processus, ils existent. Hein, et on va, effectivement, il pourrait y avoir une mise en place, une enquête d'utilité publique qui serait dirigée. Après, on pose les questions qu'on veut, etc. Et donc, comment articuler alors ? Parce que, tu vois, c'est cette réalité locale pour que ça devienne un projet. Alors, un projet qui finit par être politique, hein, une politique énergétique. Enfin, c'est une politique, on ne parle pas de...
On y arrive quand même relativement pas trop mal. Sur un autre sujet très local, une piscine cantonale. Ici, on a fait ce travail-là pour sauver cette piscine, d'utiliser le forum comme une vitrine. Sachant qu'entre 200 et 300 personnes chaque jour viennent lire le forum et que ce sont des personnes très ciblées, c'est-à-dire des gens concernés dans le coin, les élus se sont dit « Merde, il faut quand même qu'on écoute ce qui se passe ». Et donc, ça, on a fait le rôle d'un contre-pouvoir, le rôle qu'avaient les médias depuis très longtemps, de levier qui permet d'obtenir un peu ce que l'on veut ou d'être entendu. On y arrive. Alors, c'est sur du très local, du tout petit, mais pourquoi est-ce que ça ne s'étendrait pas plus largement ? C'est très possible à d'autres échelles, à mon avis. Voilà, il faut simplement savoir que l'énergie citoyenne, je dis, c'est une énergie faible. C'est une énergie qui ne marche pas tout le temps parce qu'on a tous nos petits problèmes quotidiens. On n'est pas tous mobilisables tout le temps ou disponibles tout le temps.
Non, moi, je dirais par rapport à ça, j'imagine que ça aurait peut-être mieux pris si il y avait déjà eu les démolisseurs, c'est-à-dire le projet du départ matériellement, avec des gens qui s'opposent physiquement. Et là, il y a un récit qui commence, comme à Notre-Dame-des-Landes, enfin dans un autre genre et dans un autre sens. Mais effectivement, la question du mode d'action, c'est-à-dire est-ce que ça a plus de force par Internet qu'en y étant. Moi, j'ai bien aimé tout à l'heure dans le débat, quand c'était la question du oui, mais pourquoi est-ce qu'ils n'y ont pas accès, là, les énergéticiens, pour mesurer le... Alors après, quelqu'un a demandé, oui, mais comment est-ce qu'on y accède ? Alors oui, c'est quelqu'un qui a les clés, c'est le gardien. Et la question des clés du gardien, moi, je trouve que c'était un moment intéressant du débat.
Question très concrète.
Question très concrète, voilà. Qui est ce gardien ? Où sont ces clés ? Comment y entrer ?
Il ne faudrait pas croire que les moyens de communication sur le réseau ne sont pas concrètes. Elles ne sont pas matérielles, mais elles sont très concrètes. Alors, les dinosaures de la politique locale ne savent pas encore ça, à quel point c'est concret, parce que c'est pas leur génération, Internet, ou très peu. Ils la subissent plus qu'autre chose. Mais les gens plus jeunes que nous, parce que là, à part toi, qui a l'air relativement jeune, nous, on commence à comprendre déjà à quel point ces choses-là sont concrètes. Le réseau est concret. Parce qu'on pourrait dire à ce moment-là, l'écriture ou le langage, c'est pas concret, mais c'est pas vrai. Ça fait partie du concret. La société de l'information, on est dedans depuis 20 ans. Donc les jeunes savent très bien que c'est concret. Et les vieux dinosaures en question, ils commencent à comprendre quand même que ces moyens de communication sont efficaces et concrets. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on a des problèmes de surveillance du réseau avec le quotidien, on a vu avec Prism, etc. C'est pas pour rien que la cybernétique, c'est son rôle, d'essayer de gouverner à travers ces moyens-là. C'est un domaine très important que les vieux n'ont pas encore bien compris, mais que les jeunes possèdent et utilisent aujourd'hui et qui font partie de la vie politique.
Mais se voir en vrai, c'est pas mal non plus, quand même.
Ben bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais beaucoup de choses dans la vie moderne empêchent de se voir en vrai.
Ah, ouais.
Mais d'où l'intérêt de faire du local, quoi, d'avoir une lutte locale sur un point précis qui est ce point du barrage qui est physiquement présent et qu'on voit effectivement face à nous à chaque fois qu'on va après chaque. Et effectivement, alors après, la démocratie 2.0, est-ce que ça marche, quoi ? On a parlé des révolutions Internet en Afrique du Nord, etc. Est-ce que jusqu'à quel point ça fonctionne, quoi ? Est-ce qu'une page Facebook est un critère comme ça de mobilisation sociale et publique ?
Ouais, la question Facebook, elle est assez précise parce que la volonté de Facebook au départ, c'est une entreprise privée américaine et qui est toute construite de façon à favoriser le papotage, mais pas le débat de fond. Donc pas forcément, Facebook n'est pas la meilleure application qu'on puisse trouver sur Internet. Mais il y a une autre leçon qu'on peut tirer aussi de ces choses-là. Quand on parle d'Internet, on a l'impression qu'on parle de millions de gens, mais non, pas forcément. On n'a pas besoin d'être très nombreux. Et là, on rejoint Chomsky avec sa fabrique du consentement qui expliquait pendant toute sa vie, qui a expliqué qu'on n'a pas besoin d'être très nombreux pour changer des choses. Et avec quelques outils pas très puissants comme ceux dont on dispose, on peut changer beaucoup de choses.
Donc quand on dit ça, moi, quand on dit on n'a pas besoin d'être très nombreux sur Facebook ou sur Internet, ça me fait penser à ce que disaient les vieux marxistes en disant l'avant-garde éclairée. Alors, moi, je ne veux pas être une avant-garde éclairée, c'est-à-dire être à quelques-uns à décider, à tout savoir et à tout distiller et à tout faire ingurgiter au peuple. Moi, ce que j'ai envie, moi, je pense que Facebook, les forums, la révolution sur Internet, c'est qu'un outil, quoi, je veux dire. Et il faut le résumer qu'à ça. S'il n'y a pas la rencontre entre les gens, entre les citoyens, s'il n'y a pas la confrontation d'idées, comme là on fait, comme on a fait tantôt, hein, s'il n'y a pas le rassemblement des jeunes derrière quelque chose, on n'arrivera à rien. Et il faut prendre Internet, Facebook, enfin, toutes ces technologies comme des outils. Mais comme l'électricité, quoi, je veux dire. Hein. Comme le barrage de la Trappe, s'il fournit un peu d'électricité, c'est pour faire marcher, mettons, Internet, pour que j'envoie des mails pour mobiliser les gens. Mais je ne veux pas les mobiliser sur Internet. Je veux qu'ils viennent au barrage, ou là, à l'Assemblée citoyenne, ou là, au Festival du Zest. Hein. C'est pas pour leur envoyer qu'un message de dire « Ah ouais, je suis beau, je suis gentil, je ne suis pas d'accord. » Et puis, point.
C'est comme le papier. Hein. Tu peux faire des tracts syndicaux, ou tu peux faire des pubs pour Leclerc, quoi. avec lesquels tu bourres les boîtes aux lettres. Bon, tu vois, après, c'est un outil qui peut être servi, qui peut être utilisé, effectivement, remplacer la pétition écrite. Voilà. Bon, après, mais c'est pas une fin en soi, quoi, une mobilisation sur Internet. Quoi.
Pas du tout. Oui, alors moi, je ne me ferai pas le défenseur de mobilisation par Internet. Et notamment quand je vois les gens de mon âge, effectivement, qui, le temps passé à peaufiner, quelle que soit la page, que ce soit Facebook ou... Et surtout l'énergie. Alors l'énergie des pensées et la croyance, ce qu'on s'imagine faire à coup de clic, quoi. On va sauver la planète à coup de clic. On va se mobiliser en cliquant. On va s'aimer par Internet. Moi, j'y crois pas du tout. Et je défendrai vraiment les rencontres réelles. Ouais.
Et surtout quand même que le réseau Internet est un des plus gros consommateurs d'énergie aujourd'hui, non ? Je crois que c'est le poste le plus consommateur d'énergie.
4%, même pas 4% de l'énergie consommée, enfin produite dans l'humanité, je crois. C'est pas beaucoup, en fait.
C'est plus que l'aviation. Internet, ouais. C'est énorme. Alors là, c'est encore un autre débat, mais on peut l'introduire ici. C'est-à-dire qu'Internet, on en parle toujours de manière culturelle. Alors, est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas, est-ce que ça aide à ça, est-ce que ça développe la culture? Alors, avant tout, Internet, c'est quelque chose de matériel, quoi. C'est des ordinateurs, c'est très matériel, c'est très physique, ça vient d'Afrique, ça vient d'Asie, ça y retourne dans les cimetières informatiques.
Il y a du art, quoi, c'est ça.
On peut dire ça, Antoine. Et puis il y a l'énergie, justement, qui est immense. Tout ça est très matériel, ça passe par des câbles, par des pipelines, ça va dans des data centers. Je pense que c'est très important de rappeler la dimension Internet. Et justement, là il y a une tension, c'est-à-dire que par rapport à cette idée d'avoir une énergie en quantité limitée, consciemment, et cette idée d'Internet qui est un truc de l'illimité, c'est en flux continu, c'est comme la télé maintenant avant. Enfin, il y a quelques chaînes où les émissions s'arrêtent à une certaine heure, mais il y a quand même ce truc aussi à la télé, à la radio, où on est dans le flux. C'est l'idéologie du flux. Zygmunt Bauman, qui est un sociologue polonais, parle de société liquide, c'est-à-dire on est sans cesse en mouvement. La métaphore de la liquidité va très bien à ça. Et hélas, bon, je sais pas comment m'en sortir, mais ce barrage hydroélectrique, donc à partir de l'eau, quand même permet une coupure par rapport à cette idéologie du flux, de ce truc qui passe sans cesse et qui introduit de la limitation, quoi. Je trouve ça vraiment intéressant que les gens parlent de ça et assument ça, c'est-à-dire ne disent pas « Oh là là, c'est dommage, on va prendre ce barrage, puis encore prendre ça. » Et puis Non, se contenter de ça, et puis voilà.
Voilà, merci. rencontre sur le barrage de la Trave. Tu veux, quelqu'un veut rajouter quelque chose ?
Merci Radio U.
Le public présent, nombreux, veut participer. Bon. Voilà, on est applaudi quand même. Bon, ça fait plaisir. Merci.
Merci.
Et à demain pour de nouvelles aventures ou l'année prochaine. Et il y a des, est-ce qu'il y a dernière chose, est-ce qu'il y a des échéances là sur le barrage, est-ce qu'il y a des mobilisations à venir, est-ce qu'il y a des choses à faire?
Je l'ai dit tout à l'heure, la première chose qu'on va essayer de faire, c'est constituer une association avec les citoyennes du ZES, du canton, pour défendre et réhabiliter ce barrage.
Pour demander les clés pour que Enercop puisse aller faire ses mesures.
On va appeler le gardien, alors on appelle appelle à toutes les voitures, on appelle le gardien du barrage de la Trave.
Il ne faut pas oublier la casquette.
Allez, Radio Use continue les émissions.
Radio Use.
Jazz, panic, swing, maniac, safari, trottoir, Charlie Parker, DJ, Kenny, but today the news.